Je vais vous présenter maintenant donc notre conférencier de ce soir, Dominique Guillot. Il est né en 1967, il est sociologue. Il est docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS en sociologie, au laboratoire GEMAS, chargé de conférences à Sciences Po. Dominique Guillot est spécialiste d'histoire des échanges théoriques entre sciences sociales et sciences de la vie. Ses réflexions portent sur les théories naturalistes contemporaines en sciences sociales et sur la sociologie des rapports homme-animal. Des éléments de bibliographie, donc il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Les théories néo-darwiniennes de la société et de la culture, sciences humaines en août 2001. La sociologie d'inspiration biologique au XIXe siècle, une science de l'organisation sociale, revue française de sociologie en 2000. Et il est aussi l'auteur de « Les figures de l'organisation, sciences de la vie et sciences sociales au XIXe siècle », Paris PUF 2003, et « Sciences sociales et sciences de la vie, Paris PUF 2000 ». Donc Dominique Guillot, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons des questions avec le public. Merci beaucoup.
Merci. Bonjour. Alors la théorie darwinienne de l'évolution vaut-elle seulement pour les aspects organiques de la vie humaine, ou permet-elle également d'expliquer tout ce qui relève de l'esprit? En d'autres termes, cette théorie vaut-elle seulement pour ce que l'on appelle communément la nature, ou peut-elle prétendre également expliquer la culture humaine? Alors, cette épineuse question a soulevé, dès l'apparition des ouvrages de Darwin au milieu du XIXe siècle, de très vives controverses, en particulier tout d'abord avec ce qu'on a appelé le darwinisme social. Plus récemment, au milieu des années 70, la polémique suscitée par cette interrogation a ressurgi assez brutalement avec l'apparition d'une nouvelle génération de théoriciens qui considéraient que la version moderne du darwinisme, le néo-darwinisme, fournissait une explication définitive et intégrale de l'humain, y compris de ses comportements et de ses croyances. Cette polémique fut principalement centrée sur une théorie particulière, la sociobiologie humaine, proposée par l'entomologiste américain Edward Wilson, qui défendait l'idée selon laquelle les conduites et les idées humaines ne seraient rien d'autre que l'expression de penchants ancrés dans nos gènes. Mais en réalité, à côté des modèles très sommaires proposés donc par cette sociobiologie humaine, on trouve, dans l'ensemble formé par tous ces penseurs qui s'inspirent du néo-darwinisme, des théories beaucoup plus fines et complexes, et qui vont même, pour certaines d'entre elles, contre toute attente, résolument à l'encontre de l'idée selon laquelle toutes nos pensées et toutes nos conduites seraient sous le contrôle de nos gènes. Donc l'objectif sera ici de présenter ce second ensemble de théories, sans doute moins connues que la sociobiologie humaine, en accordant une très large place à l'une d'entre elles, à l'une de ces théories, qui connaît aujourd'hui un succès croissant, en particulier dans les pays anglo-saxons. Cette théorie, c'est la théorie des mèmes, je reviendrai sur la signification de cette notion, qui s'est développée à la fin des années 70 dans le sillage de travaux menés en particulier par des généticiens et des éthologues, en particulier l'éthologue Richard Dawkins, qui a joué un rôle capital dans ces théories. Alors l'exposé sera divisé en trois points. Je commencerai par présenter la théorie néo-darwinienne telle qu'elle est développée aujourd'hui en biologie. Puis je passerai à deux de ses extensions à l'homme. Tout d'abord donc la théorie des mèmes, puis ensuite, plus rapidement, sera évoqué un second courant appelé psychologie-évolutionnisme, en général, et qui s'appuie davantage, quant à lui, sur les sciences cognitives. Enfin, dans une partie conclusive, une conclusion assez importante, quelques éléments seront brièvement proposés au sujet des forces et des faiblesses qui sont reconnues en général à ces théories dans les débats dont elles sont actuellement l'objet. J'en viens donc au premier point. Je commencerai donc par dire quelques mots sur la théorie biologique dont tous ces modèles s'inspirent, c'est-à-dire la théorie néo-darwinienne du vivant. Alors le néo-darwinisme, que l'on peut appeler également synthèse néo-darwinienne, est une explication des phénomènes biologiques qui s'est imposée dans les sciences de la vie à partir des années 1940 et qui occupe aujourd'hui une place assez dominante en biologie de l'évolution, même si elle est régulièrement l'objet de contestations et de débats nombreux et nourris. Alors, cette explication, donc, le néo-darwinisme, reprend les thèses fondamentales de Darwin, que Darwin a proposé donc dans la seconde moitié du XIXe siècle, en leur associant en particulier des faits et des hypothèses issus de la génétique. Alors que disent donc ces néo-darwiniens en biologie? Eh bien, comme Darwin, ils se proposent dans leurs travaux de répondre à la question qui hante les sciences de la vie depuis plusieurs siècles: comment expliquer qu'il existe une telle diversité d'êtres vivants qui paraissent si adaptés à leurs conditions de vie, à leur milieu? Eh bien, la profonde originalité de Darwin, et donc ensuite reprise par les néo-darwiniens sur cette question, est de proposer une explication de cette diversité et de cette adaptation des êtres vivants, de proposer donc une explication qui ne fait intervenir dans les mécanismes qu'elle propose aucune intelligence planificatrice sous-jacente, aucune volonté divine, non plus aucune tendance inhérente au progrès chez les êtres vivants, aucun progrès nécessaire dans l'histoire de la vie. Bref, elle ne fait intervenir rien de ce que l'on appelle en épistémologie des causes finales. Quelle est donc cette explication néo-darwinienne? Alors, en simplifiant, on peut dire qu'elle peut être résumée en quatre points essentiels. Le premier point est le suivant. Il existe une évolution du monde vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'ensemble des êtres vivants qui existent actuellement et qui ont existé par le passé forment un immense arbre généalogique. Ils ont un ancêtre commun, probablement unique, dont ils sont tous les descendants. Ceci implique que les êtres vivants qui existent aujourd'hui et ceux qui ont existé sont tous les uns vis-à-vis des autres, soit des descendants en ligne directe ou des ascendants en ligne directe, soit des cousins plus ou moins éloignés, comme nous avec les singes, pour prendre une bifurcation qui est assez récente. Voilà donc pour le premier point important, il y a une évolution du vivant, ce qui signifie que les êtres vivants obéissent à un processus d'engendrement généalogique, de filiation, à travers la reproduction des générations successives. Voilà pour le premier point. Il faut maintenant préciser ce qui évolue, ce qui nous amène au second point essentiel du néo-darwinisme. Alors, l'une des grandes idées de Darwin et du néo-darwinisme, c'est que ce qui évolue, ce ne sont pas les individus. Les transformations, les modifications qui affectent un individu au cours de son existence ne se transmettent pas à sa descendance. Donc, ce ne sont pas les individus qui évoluent. Ce qui évolue, en réalité, pour les néo-darwiniens, mais on trouve aussi ça chez Darwin, ce sont les populations d'êtres vivants. Alors, qu'est-ce qu'une population? C'est l'ensemble formé par les individus d'une même espèce qui sont situés dans un même espace géographique et sont ainsi susceptibles de se reproduire les uns avec les autres. Prenons un exemple. Les gorilles situés dans les forêts qui se trouvent à la frontière du Rwanda, de l'Ouganda et du Congo forment une population. Mais les gorilles qui sont localisés au centre de l'Ouganda, bien qu'ils appartiennent à la même espèce, forment une autre population. Ces deux groupes sont en effet isolés géographiquement l'un de l'autre, bien qu'ils appartiennent à la même espèce, je précise. Les individus qui les composent n'ont donc pas l'opportunité de se rencontrer. Ils ne se reproduisent donc pas les uns avec les autres, même si biologiquement ils le pourraient. Ils forment ainsi, au sens de la biologie, deux populations distinctes. Voilà donc pour le second point. Ce qui évolue pour les néo-darwiniens, ce sont les populations. Maintenant, se pose la question de savoir comment les populations évoluent. En particulier, il faut expliquer comment l'évolution a pu donner lieu à la diversité d'espèces vivantes que l'on observe actuellement et que l'on peut observer dans les espèces fossiles également. C'est là le troisième point essentiel. Les populations vivantes, selon les néo-darwiniens, évoluent en fait selon deux processus distincts. Le premier processus évolutif, c'est la transformation graduelle d'une même population dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare les caractéristiques que présentent les individus d'une population à une date T avec les caractéristiques que présentent les individus de cette population plusieurs centaines de générations plus tard, eh bien, on observera avec une très forte probabilité une modification de ces caractéristiques. Certaines caractéristiques auparavant portées par seulement certains individus seront devenues dominantes, d'autres qui étaient dominantes auront pu disparaître, d'autres encore auront pu apparaître, des caractéristiques nouvelles auront pu ainsi survenir dans cette population. Bref, la population, en ce sens, se sera transformé. Voilà pour le premier processus évolutif. Toutefois, s'il y avait seulement ce processus, les espèces se transformeraient chacune à part. Elles ne se scindraient jamais en groupes divergents et puis redivergents, comme le manifestent les classifications d'êtres vivants, et comme le manifeste également l'exemple de l'ancêtre commun que nous avons avec le singe, qui s'est scindé en deux espèces distinctes. À la limite, on pourrait même dire qu'il n'y aurait aujourd'hui sur Terre qu'une seule espèce, qui se serait simplement transformée progressivement avec le temps. Il y a donc un second processus à l'œuvre, selon les néo-darwiniens, qu'ils appellent la spéciation ou création d'espèces nouvelles. Ce phénomène s'opère en simplifiant lorsque survient un isolement reproductif d'une partie d'une population, par exemple lorsqu'une population est coupée en deux par le surgissement d'une barrière naturelle, par exemple une montagne ou bien un bras de mer. Les deux sous-populations ainsi formées vont alors se transformer séparément conformément au premier mécanisme évoqué plus haut. Elles vont alors diverger peu à peu, leurs caractéristiques vont diverger peu à peu, jusqu'à atteindre un seuil où les individus ne pourront plus se reproduire, même s'ils se rencontraient à nouveau. Il y aura donc deux espèces distinctes qui pourront ensuite donner éventuellement naissance à deux genres distincts. Voilà pour le troisième point. La transformation et la spéciation sont les modalités de l'évolution. Reste alors une question, et c'est là le quatrième point. Quel est le mécanisme qui commande la transformation, donc premier processus, la transformation graduelle des populations? Et comment expliquer que ce mécanisme ait pu conduire aux organismes aussi adaptés à leurs conditions de vie que ceux que l'on peut observer actuellement dans la nature? Alors la réponse de Darwin, affinée par les néo-darwiniens à cette question, est la suivante. L'un des mécanismes principaux de cette transformation, c'est la sélection naturelle. Alors qu'est-ce que la sélection naturelle? Pour bien saisir ce que signifie aujourd'hui cette idée très complexe malgré les apparences et qui est l'objet de nombreux débats en biologie encore actuellement, il faut commencer par dire deux mots de génétique, très simplifiés dans ce que je vais dire. Alors en simplifiant donc, on peut dire que la génétique moderne nous apprend que le corps de chaque être vivant est construit à partir d'une information codée dans un support biochimique, un support moléculaire qui est contenu dans les cellules. Ce support biochimique, qui est composé d'ADN, de la molécule d'ADN, c'est ce qu'on appelle les gènes. En simplifiant, on peut dire donc que les divers gènes d'un individu contiennent encodés les instructions qui vont permettre aux cellules de produire les molécules qui constituent les différentes parties de l'organisme, donc les molécules qui conditionnent la structure et le fonctionnement de l'être vivant. Alors, la plupart du temps, il existe diverses variantes pour un même gène. Ces variantes, les variantes d'un gène, donc s'appelant les allèles. Par exemple, il existe plusieurs allèles, plusieurs variantes pour le gène qui code la fabrication du pigment qui donne la couleur des yeux chez les mouches drosophiles. C'est vrai aussi pour tous les autres êtres vivants. Selon l'allèle, la variante de ce gène portée par l'individu, eh bien, cet individu aura une couleur d'yeux différente. S'il porte l'allèle yeux bruns, il aura des yeux bruns, et s'il porte l'allèle yeux rouges, il aura des yeux rouges. L'ensemble des gènes, ou si l'on veut donc des allèles portés par un individu, s'appelle son génotype. Et l'ensemble de ses caractéristiques morphologiques et physiologiques, qui sont donc construites à partir de ce génotype, au cours de son existence, dans un environnement donné, car l'environnement a une importance aussi dans la détermination des caractères, donc l'ensemble de ces caractères s'appelle le phénotype. Le nombre de gènes et d'allèles étant immense dans une population, en principe, il existe donc un très grand nombre de combinaisons possibles, et donc tous les individus d'une même population sont tous très légèrement différents des uns des autres. Alors, chose très importante, soulignent les néo-darwiniens, seul le génotype est héritable. Donc seul le génotype peut se transmettre à la descendance. Il se transmet lors de ce qu'on appelle la reproduction. L'information génétique est alors transmise du parent à son descendant par la fabrication d'une copie des gènes du parent. Et cette copie est contenue dans les cellules sexuelles chez les êtres à reproduction sexuée. En simplifiant les choses, on peut donc dire que la reproduction, c'est la transmission d'instructions codées dans des gènes, c'est-à-dire dans la molécule d'ADN, qui a la propriété très particulière de produire des répliques, des copies d'elles-mêmes, Et à partir de ces copies, donc, d'autres individus du même type pourront être construits, et ainsi de suite. Parce qu'ils pourront également eux-mêmes se reproduire à leur tour et transmettre cette information génétique à travers leurs cellules sexuelles. Donc au total, tous ces enseignements tirés de la génétique font que l'on peut décrire une population d'êtres vivants comme une population de phénotypes qui exprime chacun un génotype particulier. Et au niveau purement génétique, une population peut même être décrite comme un ensemble d'allèles. Chaque allèle, par exemple l'allèle yeux rouges dans une population de drosophiles, chaque allèle donc ayant dans cette population un nombre plus ou moins important de copies, de répliques de lui-même, suivant le nombre d'individus qu'il porte. Alors, à partir de ce résumé très simplificateur, on peut expliquer dans ces grandes lignes en quoi consiste la sélection naturelle selon les néo-darwiniens. Alors, c'est un processus à deux étapes. Première étape, à chaque nouvelle génération d'individus dans une population, surviennent des génotypes inédits, nouveaux, et ceci par deux voies principales. Tout d'abord, les mutations génétiques, qui amènent directement brusquement de la nouveauté génétique, et deuxièmement, les recombinaisons génétiques lors de la reproduction, qui amènent à chaque nouvelle génération l'apparition de génotypes et donc de phénotypes inédits. Alors, ces deux mécanismes génétiques qui font varier constamment les populations sont totalement aléatoires et sans finalité adaptative, a priori. Ça, il faut le préciser, c'est très important. Donc voilà pour la première étape. Deuxième étape maintenant, ces variations qui surviennent à chaque génération dans une population sont, pour les individus qui en sont porteurs, parfois désavantageuses, parfois neutres, mais parfois elles sont également avantageuses. Prenons l'exemple d'une espèce qui a des prédateurs, comme le phasme par exemple, ou une espèce de papillon. Et imaginons que survienne chez un individu de cette espèce, de cette population plutôt, je devrais dire, compte tenu de ce que j'ai dit avant, une mutation génétique qui entraîne un léger changement de couleur chez l'animal et qui améliore ainsi son camouflage. Et bien, l'individu porteur de ce nouveau caractère, donc qui a subi cette mutation génétique, et donc du gène de l'allèle qui le code, aura, on le voit, en probabilité, moins de chances d'être dévoré que ses congénères qui ne possèdent pas cette modification. Il aura donc en probabilité un nombre de descendants plus important que ses congénères. En outre, comme ce changement de caractéristiques morphologiques est génétique, comme je le dis, puisqu'il est le produit d'une mutation, il est héréditaire. Conséquence finale de ce processus, les exemplaires, les copies du gène qui code ce changement de couleur auront un effectif relativement plus important dans la population à la deuxième génération, puisque l'individu qu'il portait initialement aura eu plus de descendants que les autres. Au bout de plusieurs générations, toute chose égale par ailleurs, et puisque la population ne peut pas augmenter, cet allèle, ce gène, sera possédé par tous les individus de la population, du moins par une grande partie d'entre eux. Et chaque fois qu'une mutation ou une recombinaison génétique, donc aléatoire, je le répète, ira dans le sens d'une amélioration du camouflage, eh bien, elle sera, selon les principes de ce modèle, sélectionnée. Ici, il y a donc, comme disent les biologistes, une pression sélective dans le sens d'une certaine couleur de camouflage qui est due à l'existence de prédateurs. Voilà donc, disent Darwin et les néo-darwiniens, comment les organismes ont pu s'adapter peu à peu à leur environnement, par un mécanisme qui, comme on le voit, est aveugle et qui ne fait intervenir aucune intelligence planificatrice ou force providentielle, aucune tendance au progrès, donc aucune cause finale. Ce mécanisme, c'est donc la sélection naturelle, c'est-à-dire l'accroissement relatif dans la population au fil des générations de la proportion d'individus qui sont porteurs des innovations, des variations héréditaires, qui augmentent la capacité d'avoir un nombre de descendants plus important que les autres. Donc voilà donc pour le mécanisme de la sélection naturelle. Alors depuis une trentaine d'années, il y a de très vifs débats entre les biologistes au sujet de l'importance de ce mécanisme dans l'évolution. Certains considèrent en effet que la sélection naturelle n'est pas le mécanisme principal qui expliquerait la transformation des populations depuis les origines de la vie. À leurs yeux, d'autres mécanismes, parfois très complexes d'ailleurs, ont au total un poids beaucoup plus important, en particulier, on évoque souvent les migrations, la dérive génétique ou encore les mutations neutres, c'est-à-dire les mutations qui se diffusent sans conférer pour autant d'avantages aux individus qui les portent. Pour d'autres chercheurs, en revanche, la sélection naturelle constitue l'agent principal de l'évolution de la transformation graduelle des populations. Et c'est généralement parmi ces chercheurs, parmi ces biologistes, que l'on va trouver les théoriciens qui proposent d'utiliser le néo-darwinisme tel qu'il a été développé en biologie pour expliquer les conduites et les idées chez l'homme. J'en viens donc maintenant aux diverses extensions à l'homme de cette théorie de l'évolution du vivant. Alors, dans les années 70, cette théorie néo-darwinienne va être appliquée à l'homme de deux façons opposées, globalement, la deuxième se divisant en deux autres versions que je vais développer, donc deux grandes façons opposées qui n'ont pas toujours été très nettement distinguées, surtout en raison des polémiques auxquelles la première a donné lieu. La première, c'est ce qu'on a appelé la sociobiologie humaine, proposée en particulier, comme je l'ai dit en introduction, par l'entomologiste américain Edward Wilson. Alors, que dit la sociobiologie humaine ? Eh bien, elle applique très directement ce modèle à l'espèce humaine, en considérant que finalement, l'espèce humaine est une espèce qui n'a aucune spécificité, qui doit être traitée comme une espèce animale parmi d'autres. Donc, aux yeux de Wilson, même s'il a un peu changé son propos dans les années 80, on peut dire que, malgré tout, en définitive, les idées et les comportements humains sont étroitement contrôlés par des gènes, sont l'expression, comme dit un autre biologiste, du murmure intérieur chuchoté par nos gènes. Donc ces gènes auraient été sélectionnés chez nos ancêtres du Pléistocène en raison des forts avantages qu'ils seraient censés avoir procurés à ceux qui en étaient porteurs, et qui auraient eu donc plus de descendants que les autres. Les différences culturelles, les différences observables entre les cultures humaines actuelles seraient, aux yeux de ces sociobiologistes, au total assez peu nombreuses et sans signification propre. Elles seraient en définitive un produit résiduel du hasard. Alors, j'insisterai pas sur cette version du néo-darwinisme en sciences sociales, en particulier parce que les modèles proposés par les représentants de ce courant étaient le plus souvent très sommaires et ont donné lieu à de vives controverses dans lesquelles l'affrontement idéologique, de part et d'autre d'ailleurs, a souvent supplanté le débat proprement scientifique. C'est donc un tout autre ensemble de théories dont je vais commencer par parler ici, en particulier parce qu'il connaît aujourd'hui un grand succès, enfin un assez vif succès du moins, mais aussi parce qu'il reste encore assez méconnu, sans doute aussi parce qu'il est récent. Les théories qui appartiennent à cet ensemble ont été formulées par des savants issus d'horizons assez différents. On y trouve des généticiens, des éthologues, mais aussi des anthropologues et également des philosophes, dont le plus connu est sans doute le philosophe américain Daniel Dennett, qui partagent tous l'idée selon laquelle l'esprit et les conduites humaines pourraient être expliquées à partir non pas directement des gènes, mais à partir d'une analogie avec l'évolution génétique. Alors, pour rendre plus clair la présentation de ce courant, de cette doctrine, j'évoquerai essentiellement le nom de l'éthologue Richard Dawkins, qui a inventé le concept de « même ». Mais en réalité, il ne faut pas perdre de vue que c'est là un courant qui regroupe plusieurs théoriciens, issus donc d'horizons différents, et dont les réflexions ont convergé vers un semblable modèle à quelques nuances près, même si les débats sont encore nombreux. Venons-en donc à ce que dit Dawkins. Alors tout d'abord, il faut souligner, et c'est là un fait assez important, que Dawkins est un fervent défenseur de la sociobiologie animale, ce qui explique pourquoi on l'a rejeté les théories qu'il proposait sur l'homme. Pourtant, il soutient que pour comprendre l'homme, en particulier pour comprendre les diverses conduites et les croyances observables dans les différentes cultures humaines, eh bien, il faut abandonner la sociobiologie. Pour lui, donc, contrairement à ce que l'on peut dire sur les animaux, la plupart de nos conduites et de nos idées ne sont pas sous le contrôle de nos gènes. Mais abandonner la sociobiologie humaine, pour Dawkins, ce n'est pas abandonner le néo-darwinisme, bien au contraire. Car pour lui, il y a une autre leçon à tirer de la théorie de l'évolution néo-darwinienne. Cette leçon consiste à comprendre que l'évolution biologique n'est en définitive qu'un type d'évolution parmi bien d'autres possibles. Pour qu'il y ait évolution, il faut quoi, dit Dawkins ? Il faut simplement qu'il y ait dans une population d'individus des unités porteuses d'une information capable d'une part de muter, de varier brutalement, et capable d'autre part de se répliquer, de produire des copies, des répliques d'elles-mêmes dans les différents individus de la population. Alors de telles unités, Dawkins les appelle des réplicateurs. Donc les gènes, comme on voit, sont des réplicateurs biologiques, qui sont les substrats de l'évolution biologique. Mais avec cette définition, rien n'interdit qu'il existe d'autres types de réplicateurs. Pardon. Et précisément, selon Dawkins, il existe un autre type de réplicateur dans les populations humaines. Alors quel est ce nouveau type de réplicateur ? Pour le comprendre, dit Dawkins, il faut d'abord considérer le fait que l'évolution biologique nous a dotés d'un cerveau qui est capable d'imiter les conduites ou les croyances que l'on observe chez autrui. Lorsque nous imitons quelqu'un d'autre, par exemple lorsqu'un tennisman débutant apprend à faire un revers à deux mains au tennis, tout se passe comme si une somme d'instructions, d'informations pour l'exécution d'un comportement, ici la manière d'exécuter un revers, passait d'un cerveau à un autre. En ce sens, il y a ici un processus de réplication de l'information, analogue à celui du gène, à ceci près que la transmission de l'information ne s'effectue pas ici, ne s'opère pas ici d'un individu à un autre par la duplication de la molécule d'ADN, mais par l'imitation, la reprise à autrui d'une idée. Donc c'est là le premier point important. Le second point important, ajoute Dawkins, c'est qu'il apparaît régulièrement dans les populations humaines des idées nouvelles, qui sont souvent de légères modifications d'idées plus anciennes. Ces idées nouvelles, ces innovations, sont l'analogue exact des mutations, dit Dawkins. Une nouvelle variante survient, qu'elle soit le fruit d'un oubli, d'une erreur, qu'elle soit intentionnelle, peu importe. Ce qui est important, c'est que régulièrement, des innovations surviennent dans le monde des idées. Dans certains cas, une telle variante nouvelle, une telle idée qui survient, eh bien, elle arrive à produire des répliques, des copies d'elle-même dans la population. Pour reprendre mon exemple du tennis, Björnborg, en faisant son revers à deux mains, a produit une sorte de mutation dans la manière d'exécuter les revers au tennis. Puis cette idée, cette pratique, s'est diffusée dans la population des tennismen dans les années 80, jusqu'à devenir presque dominante, sans évincer toutefois le fait de faire un revers à une main. On a donc là, dirait Dawkins, un phénomène identique à l'apparition d'un nouvel allèle dans une population biologique. L'allèle nouveau entre véritablement en concurrence avec l'allèle ancien. Pourquoi il entre en concurrence ? Parce qu'on ne peut pas faire à la fois un revers à une main et à deux mains. Il faut choisir. Les deux pratiques, et donc les deux instructions qui les codent, en ce sens, sont en concurrence l'une avec l'autre. Parfois, l'allèle nouveau, l'allèle mutant, donc, parvient à produire plus de répliques de lui-même que l'allèle ancien dans la population. Il finit par le supplanter, ce qui s'est presque passé pour le revers à deux mains dans la population des tennisman. On a donc ici, si l'on regarde bien cet exemple, dit Dawkins, un processus de sélection entre deux idées, deux manières d'agir concurrentes, sélection à travers leur inégale faculté à être imitée, autrement dit, à travers leur inégale faculté à produire des copies d'elles-mêmes chez les autres individus de la population. Donc l'idée qui commande une pratique, comme celle de la manière de faire un revers au tennis, obéit donc à une logique évolutive qui, dans ses mécanismes généraux, est absolument identique à celle d'un gène et de ses différents allèles. C'est pourquoi Dawkins choisit de nommer de telles idées les mèmes, M-E accent grave, M-E-S, avec un accent grave donc, en raison, dit-il, de la ressemblance de ce mot avec le mot gène, et également en raison de la ressemblance de ce mot avec le mot français même, avec un accent circonflexe cette fois, qui évoque l'idée de répétition à l'identique, de réplication. Alors j'ai pris ici volontairement un exemple très simple, celui du tennis, pour clarifier la présentation de cette théorie, mais en réalité ce modèle est susceptible de s'appliquer, selon Dawkins et ceux qui défendent des idées semblables à lui, à des choses beaucoup moins futiles et d'une extension beaucoup plus importante. Il peut en fait s'appliquer, selon ces théoriciens, à toutes les idées que les individus reçoivent d'autrui et qui déterminent d'une manière ou d'une autre leur conduite. Ainsi, ce modèle vaut tout autant pour des phénomènes comme la diffusion des découvertes médicales, comme par exemple la pratique de la vaccination au XXe siècle. Il peut également s'appliquer sans difficulté, selon eux, à l'histoire des théories scientifiques. Une nouvelle théorie, la théorie de Darwin, par exemple, peut être regardée comme un nouveau mème qui s'est imposé dans la population, dans la tête des biologistes du XIXe siècle, et a supplanté petit à petit, tout d'abord le mème des théories fixistes sur l'évolution, puis le mème des théories de l'évolution néo-lamarckienne. Il a donc véritablement envahi la population en ce sens. De la même façon, on pressent que ce modèle s'applique sans difficulté au mode vestimentaire ou linguistique. Des expressions nouvelles sont ainsi inventées régulièrement pour traduire un sentiment ou une idée donnée. Certaines mutations linguistiques ou mutations vestimentaires connaissent alors un vif succès et sont imitées et se diffusent dans les populations. C'est le cas, par exemple, pour prendre un exemple linguistique, des nouvelles formes de jurons. Mais ce modèle ne vaut pas seulement, selon Dawkins, pour les idées ou pratiques à l'existence fugace, comme les modes, ou pour les idées ou les pratiques dont l'existence serait récente, bien qu'elle soit solidement installée, comme les découvertes scientifiques. Il vaut, selon eux, tout autant pour des idées installées depuis fort longtemps et beaucoup plus durablement, comme la religion, par exemple, les prescriptions concernant le mariage, les formes d'organisation politique, bref, les règles juridiques en général, et plus largement encore, tout ce que l'on peut nommer les institutions. Institutions donc qui ont par définition une importance capitale sur nos idées et nos croyances et nos comportements. Les mêmes n'ont donc pas tous une durée de vie identique. Certains, comme la religion, existent depuis des millénaires dans les populations humaines et sont très répandus, sous des formes toutefois assez variées. D'autres se multiplient de manière extrêmement rapide pour disparaître de façon tout aussi rapide. C'est ce que l'on appelle les modes. D'autres se sont développés plus récemment et semblent assez solidement installés, du moins pour l'instant. C'est le cas des innovations techniques. Ce qui est important pour Dawkins, c'est que toutes ces manifestations de l'esprit humain, qui correspondent en gros à ce que les anthropologues appellent la culture au sens large, c'est de ça qu'on parle quand on parle des cultures au sens large en anthropologie, eh bien, ce qui est important, c'est que toutes ces manifestations de l'esprit humain obéissent en définitive, selon Dawkins, à une même logique, celle d'une évolution par sélection des mutations, des innovations qui ont un pouvoir reproducteur, une capacité à produire des répliques d'elles-mêmes, à être imitées, plus grande que les autres. En un mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Dawkins, à côté des réplicateurs biologiques, les gènes, il existerait des réplicateurs idéels ou mémétiques, pour reprendre l'adjectif qui s'est diffusé, qui seraient donc les mêmes. Alors, pour être plus précis, les mêmes sont en réalité des idées élémentaires assez simples. Les idées plus complexes, qui sont formées par l'association d'idées élémentaires plus simples, doivent donc être regardées comme des associations complexes et intégrées de mêmes élémentaires. La religion, par exemple, pour Dawkins, est une association complexe de mêmes élémentaires, comme par exemple l'idée d'un ou de plusieurs dieux, comme par exemple l'idée d'une vie dans l'au-delà, l'idée du feu de l'enfer, qui sont associés les uns aux autres. Et chaque religion, bien entendu, associe de manière spécifique ces mêmes à d'autres mêmes particuliers. Dawkins considère ainsi que ces complexes, ces associations complexes de mêmes obéissent aux mêmes lois que les associations complexes de gènes que constituent, au fond, les êtres vivants. En s'associant les uns avec les autres, les mêmes, comme les gènes dans nos organismes, dont nous sommes les machines à survie, dit Dawkins, eh bien donc en s'associant les uns avec les autres, par exemple, les mêmes de l'idée de religion ont augmenté considérablement les chances de propagation, de diffusion dans la population de chacun d'entre eux. Ils se propagent ainsi beaucoup mieux que s'ils étaient isolés l'un de l'autre. Donc, après ces quelques exemples, résumons donc les principes généraux de cette théorie. On va voir qu'elle est analogue à celle de l'évolution en biologie néo-darwinienne. Premièrement, donc, premier principe, selon les défenseurs de cette théorie, les idées qui ont cours dans les différentes cultures humaines sont plongées dans un processus d'évolution, c'est-à-dire un processus d'engendrement généalogique continuel par voie de reproduction, de transmission des idées, donc ici des mêmes. Deuxième principe, cette évolution s'opère de deux façons distinctes, identiques à celles des gènes. La première, c'est la transformation graduelle des idées, des différents mèmes, qui occupent les esprits des individus dans une même population. La seconde, c'est la séparation d'une population humaine en deux. Les individus des deux sous-populations obtenues, séparés, ne communiquant plus les uns avec les autres, les mêmes propres à chacune de ces deux populations vont ainsi se transformer séparément, conformément au premier mécanisme évoqué. Et donc, au bout d'un moment, ils vont diverger. Et c'est ce mécanisme, selon ces théoriciens, qui a donné naissance aux différentes cultures humaines, par séparation et évolution séparée des mêmes, et en particulier aux différentes langues humaines. Voilà pour le deuxième principe. Troisième principe, la transformation des idées qui ont cours dans une population d'êtres humains, dans une culture, si on veut, s'explique, tout comme l'évolution génétique, par différents mécanismes qui sont analogues donc à ceux de l'évolution biologique. Donc on peut évoquer l'immigration de populations porteuses de nouveaux mèmes, on peut évoquer, comme en biologie, des mutations neutres, donc sans effet décisif, la dérive aléatoire, et surtout, bien entendu, le mécanisme le plus important de tous pour tous ces néo-darwiniens, la sélection, mais cette fois on ne parle pas de sélection naturelle, puisqu'elle ne porte pas sur les gènes, on parlera de sélection culturelle. Sélection culturelle, donc, c'est-à-dire la diffusion des mèmes, des idées, qui ont une capacité plus grande que les idées avec lesquelles elles sont en concurrence, de produire des répliques d'elles-mêmes dans les esprits, autrement dit d'être imitées. Quatrièmement, enfin, tout ceci implique au total, pour ces néo-darwiniens, que l'être humain, en fait, se trouve placé au confluent, au point d'intersection de deux dynamiques évolutives qui expliquent, qui déterminent en grande partie ses conduites et ses croyances. L'évolution des gènes, d'un côté, et l'évolution des mèmes, ou si l'on veut, de la culture, de l'autre. Pour paraphraser Dawkins, chacun d'entre nous serait d'un côté une machine à survie pour ses gènes, machine à survie qui permet aux gènes de se répliquer et donc de se diffuser, et chacun d'entre nous serait d'un autre côté un point d'ancrage dans son cerveau, donc pour les mêmes, qui se propagerait ainsi d'un cerveau à un autre, exactement comme les virus, pour une raison simple d'ailleurs, ça n'est pas un hasard, parce que simplement ça tient au fait que les virus sont également des réplicateurs. C'est pourquoi ces théoriciens parlent également volontiers, on trouve dans cette littérature, les idées de contagion des idées, et ils reprennent également beaucoup les modèles, le formalisme des modèles de l'épidémiologie, bien que ce ne soit pas là des pathologies, attention. Donc voilà pour les lignes générales de cette théorie des mêmes. Alors avant de passer à une autre variante de ce néo-darwinisme, deux points très importants sont à souligner au sujet de cette théorie. Le premier point, c'est que, dans cette théorie, c'est un point extrêmement important à souligner parce qu'il y a eu beaucoup de confusion là-dessus au moment de la polémique autour de la sociobiologie humaine. Donc, dans cette théorie, l'évolution culturelle est considérée comme un processus certes analogue à l'évolution génétique, mais, ce qui est très important, totalement indépendant vis-à-vis des gènes. Les deux systèmes évolutifs, donc les mêmes et les gènes, évoluent en fait en parallèle. Ils ont donc chacun leur dynamique propre. En un mot, ça veut dire que la culture n'est pas commandée par les gènes. Parler donc d'évolution culturelle, c'est ici dire qu'il y a une évolution de la culture autonome à l'égard des gènes. C'est pourquoi cette théorie des mêmes est à l'opposé de la sociobiologie humaine, et elle doit en être fermement distinguée. Alors cette autonomie de la culture, cette autonomie qui est reconnue à la culture dans ce modèle, donc cette autonomie du monde de l'esprit à l'égard des gènes, est particulièrement visible dans le sens qui est donnée à la notion de sélection dans l'évolution culturelle, dans l'évolution des mêmes. Car ici, il faut faire bien attention. La sélection culturelle, comme je l'ai dit brièvement, ce n'est pas la même chose pour ces théoriciens que la sélection naturelle. Être efficace pour un même, cela ne veut pas dire être biologiquement efficace. Cela ne veut pas dire augmenter les chances de survie et de reproduction biologique de celui qu'il porte. La logique du mème, comme celle de tout réplicateur, c'est de se répliquer. Être efficace pour un mème, c'est donc être imité, c'est donc avoir une attractivité psychologique plus grande que les autres mèmes. Alors il y a là une conséquence très importante, ça veut dire que dans le modèle proposé par Dawkins et ceux qui pensent des choses analogues, Certaines idées peuvent se diffuser dans les populations humaines tout en étant désavantageuses, voire même parfois extrêmement désavantageuses du point de vue biologique. Il n'y a aucune contradiction là-dedans dans ce modèle. Alors dans la sociobiologie, c'est nécessairement contradictoire. C'est le cas, par exemple, dit Dawkins, c'est un exemple qu'il prend, du célibat chez les prêtres, d'un point de vue strictement génétique ou biologique, du point de vue de la sélection naturelle des gènes, bien sûr, et de rien d'autre, une telle pratique est totalement contre-productive, puisque l'individu renonce à avoir une descendance. Donc si c'était génétique, eh bien, ce gène disparaîtrait avec l'individu qu'il porte, puisqu'il n'aurait pas de descendance, il ne pourrait pas le transmettre. C'est le cas également, selon l'anthropologue William Durham, un second exemple, de pratiques cannibales qui conduisent certaines tribus de Nouvelle-Guinée à manger le cerveau de leur ennemi, avec des croyances autour de l'énergie qui est transmise ainsi à celui qui mange le cerveau de son ennemi, ce qui fait qu'il contracte en fait une forme souvent mortelle d'encéphalite spongiforme. Donc on voit bien là que la culture, l'évolution des idées culturelles aboutit à des choses qui ne sont pas nécessairement optimales d'un point de vue biologique. Donc, comme on peut en juger encore une fois, dans la théorie des mêmes, l'évolution culturelle est considérée comme un processus qui a une dynamique propre et qui est donc autonome à l'égard des gènes. Donc voilà donc pour le premier point important qu'il convient de souligner au sujet de cette théorie. Le second point important sur lequel je voulais insister concerne quant à lui une différence entre ces deux types d'évolution. Car au-delà des ressemblances profondes dans les mécanismes généraux d'évolution, eh bien, il y a des différences entre l'évolution des gènes et l'évolution des mèmes, différences dont les conséquences sont très importantes. Alors, ces différences portent pour l'essentiel sur les modalités de la transmission de l'information. Première différence, la transmission génétique, comme on sait, n'est possible que d'un parent vers un enfant. Alors que dans l'évolution culturelle, au contraire, un mème peut être transmis d'un individu à n'importe quel autre individu, qu'il soit parent ou non, qu'il soit de la même génération ou non. De là une conséquence très importante, un nouveau mème, s'il est très efficace, s'il parvient à être imité par beaucoup de gens, il peut se répandre dans une population en moins d'une génération, ce qui est bien entendu totalement impossible pour un gène. Deuxième différence maintenant, qui est liée à la première, les moyens de transmission par lesquels les mèmes se propagent peuvent démultiplier leur pouvoir de diffusion, alors que ce n'est pas possible pour les gènes. En effet, les gènes ont une seule voie de transmission dans les populations humaines, c'est la reproduction sexuée. Du moins pour l'instant, parce que peut-être qu'avec les biotechnologies, ça changera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la reproduction sexuée. Or, la biologie nous dit que la reproduction sexuée ne peut modifier à elle seule la proportion des gènes des allèles dans une population. En revanche, les mèmes se propagent, produisent des copies d'eux-mêmes à travers des canaux de transmission qui peuvent faire qu'ils sont imités simultanément par un nombre très important d'individus. Par exemple, une personne charismatique devant une foule, ou une personne qui a également du pouvoir dans une société très hiérarchisée, ou encore une personne qui écrit un livre ou un article à succès, eh bien, sont en mesure d'imposer simultanément à une multitude d'individus une même idée, un même mème, si je puis dire. Certains mèmes ont eu, selon Dawkins, une importance capitale dans l'évolution culturelle de l'humanité. Dans la mesure où, une fois installés, ils ont créé des canaux de transmission rapides et extrêmement efficaces pour tous les autres mèmes. En simplifiant, on peut dire ainsi que tout ce qui a augmenté la possibilité de diffuser de l'information dans les populations humaines a, dans le même temps, augmenté les possibilités de diffusion et d'évolution des mèmes, des idées. Ainsi donc, le langage, puis l'écriture, l'imprimerie, la radio, la télévision, puis l'ordinateur, et récemment, énormément également Internet, ont démultiplié les canaux de transmission de l'information entre les individus, enfin, du moins pour ceux qui ont accès, et en s'imposant ces complexes de mèmes que sont les ordinateurs, qu'est le langage également, eh bien, ils ont créé à la fois les conditions d'une augmentation des innovations, des mutations, d'apparition des nouveaux mèmes. Plus il y a d'informations, plus les mutations ont de chances d'apparaître. Et également, ils ont créé les conditions d'une amplification des possibilités de diffusion des mèmes et de leur rapidité. Car les copies disponibles pour la diffusion ne sont plus désormais seulement dans la tête des individus, mais également dans les pages des livres ou encore dans les disques durs d'ordinateur, ce qui la rend la diffusion beaucoup plus facile. Et on peut dire que la globalisation n'a fait ainsi qu'augmenter récemment l'ampleur de cette évolution, de l'évolution des mèmes, pour des raisons qui sont assez évidentes. Donc toutes ces raisons font que l'évolution des mèmes est, pour Dawkins, aujourd'hui beaucoup plus rapide que celle des gènes, et qu'elle s'est donc démultipliée dans les derniers siècles. Au point qu'on peut dire, selon Dawkins, qu'elle a finalement aujourd'hui beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance, qu'elle est beaucoup plus déterminante dans l'explication des conduites humaines et des idées que l'on peut trouver dans la tête des êtres humains. Voilà donc pour la théorie des mèmes. Alors, j'en viens maintenant à une autre variante d'explication néo-darwinienne de la diffusion des idées qui s'est développée à côté de cette théorie des mèmes. Cette autre variante s'est développée à partir des années 80 à peu près, en s'appuyant beaucoup plus que la théorie des mèmes, d'ailleurs, sur les sciences cognitives. Et cette variante est assez souvent désignée sous le nom de psychologie évolutionniste. Alors, les représentants de ce second courant se distinguent du premier en particulier parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de mèmes, d'entités donc qui se répliqueraient à l'identique dans les esprits humains en passant d'un cerveau à un autre. L'anthropologue Dan Sperber, par exemple, qui est l'un des représentants importants de ce courant, fait remarquer qu'en réalité, si on observe bien les choses, la réplication des idées à l'identique reste dans l'espèce humaine un cas exceptionnel. Le plus souvent, en passant d'un cerveau à un autre, les idées se transforment, elles ne sont pas absolument identiques dans celui qui reçoit l'idée et dans celui qui l'a formulée initialement. Donc, pour Sperber, la loi de la transmission des idées d'un cerveau à un autre, ce serait bien plutôt la transformation que la réplication. Ceci implique, selon Sperber, que les idées, les représentations, ne peuvent être considérées donc comme des réplicateurs, comme des entités donc qui évolueraient au sens de Darwin. Car pour qu'une entité puisse être l'objet d'une évolution par sélection, par reproduction sélective, il faut en effet qu'elle ne mute pas trop, que son taux de mutation soit relativement bas. Lorsqu'une chose se transforme trop fréquemment, qu'elle change dès qu'elle passe d'un esprit à un autre, pour le cas des mèmes, eh bien, elle cesse de se reproduire à proprement parler, puisqu'elle donne naissance à autre chose qu'à des copies d'elle-même. Pourtant, ajoute Sperber, bien que les idées se transforment à chaque transmission, bien que les idées se transforment en passant d'un individu à un autre dans les populations humaines, on trouve malgré tout dans toutes les sociétés de nombreuses idées qui ont un contenu en moyenne assez stable, qui ne se modifie pas trop. C'est le cas en particulier, bien entendu, de ce qu'on appelle les institutions. Par définition, elles ne bougent pas beaucoup. C'est le cas également des traditions, c'est le cas aussi de choses donc, qui se perpétuent de manière moins formelle et organisée que les institutions, comme les poèmes ou les contes. Sperber évoque quant à lui l'histoire du petit chaperon rouge. Alors comment expliquer cette stabilité de ces représentations, de ces idées, si on abandonne l'idée de même? Eh bien, cette stabilité s'expliquerait, selon Sperber, par l'existence d'attracteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré les modifications incessantes dont elle serait l'objet en passant d'un esprit à un autre, eh bien, certaines idées resteraient souvent au voisinage d'un noyau stable, d'une version assez stable, en direction de laquelle seraient ramenées incessamment les versions de cette idée qui s'éloignerait trop de ce noyau. Alors, l'existence, je simplifie ici beaucoup la thèse de Sperber, mais l'existence et la nature de ces noyaux stables, de ces attracteurs, trouveraient eux-mêmes, selon ces théoriciens, leur explication, en dernière analyse, même si parfois le lien est assez complexe, dans la structure et le fonctionnement du cerveau humain tel qu'il a été façonné par l'évolution biologique. Pour prendre un exemple parmi d'autres, selon ces auteurs, ici Scott Atran, les classifications animales et végétales, spontanément opérées par les gens, par exemple, seraient en fait relativement stables d'une culture à l'autre parce que les êtres humains seraient disposés par nature à opérer certaines distinctions entre certains types d'êtres vivants. Alors, comme on peut le voir, la théorie proposée par les représentants de ce courant de pensée, elle est darwinienne, mais en un sens bien différent de la théorie des mèmes. Pourquoi ? Parce que, ici, l'analogie et le parallélisme entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique sont abandonnés. Il n'y a pas d'évolution culturelle autonome ici, il n'y a pas de même. Ce que cette théorie reprend au darwinisme, en fait, c'est l'idée selon laquelle le cerveau humain a été façonné par l'évolution biologique et que c'est en déterminant ses compétences et ses dispositions naturelles que l'on peut reconstruire une théorie de la diffusion des idées et des croyances dans les différentes cultures. Alors, les défenseurs de la théorie des mêmes ont proposé certaines réponses à la critique formulée ainsi par Sperber et les représentants de cette psychologie évolutionniste. Alors, c'est des débats assez complexes, je vais donner une réponse parmi bien d'autres. En particulier, ils font valoir qu'il ne faut pas confondre un même, d'une part, et son expression chez l'individu, d'autre part. De la même façon qu'il ne faut pas confondre un gène, d'une part, et son expression phénotypique, autrement dit la forme que prend le caractère qu'il code chez un individu, d'autre part. Alors, je vais prendre un exemple. Les enfants, en fait, ne ressemblent jamais exactement à leurs parents. Ils n'ont en particulier jamais exactement la même taille, ni même une taille moyenne entre la taille de leurs deux parents. Donc, si on ne regarde que les individus, si on ne regardait que les individus, c'est-à-dire la manière dont s'expriment les gènes, on pourrait avoir l'impression que, finalement, la loi de la transmission biologique, eh bien, c'est la transformation incessante, puisque les individus ne semblent pas se ressembler autant que cela d'une génération à une autre, entre les parents et les enfants. Or, comme on sait, effectivement, les gènes se répliquent. Donc, ils produisent des copies fidèles d'eux-mêmes. Donc, il y a bien un processus de réplication sous-jacent à l'évolution biologique. Eh bien, dit Dawkins, c'est exactement la même chose pour les mêmes. Par exemple, les différentes versions de la théorie de Darwin, ou encore les différentes versions de la théorie de Darwin que l'on peut trouver dans la tête des biologistes qui la connaissent, ou encore les différentes versions du petit chaperon rouge qu'on a chacun d'entre nous dans la tête, sont toutes sensiblement différentes l'une de l'autre. Mais ce ne sont là que des expressions individuelles du même, de l'idée, théorie de l'évolution de Darwin, ou du même, histoire du petit chaperon rouge. Voilà donc pour ces théories néo-darwiniennes. Pour terminer, on peut évoquer, dire quelques mots sur les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses qui sont actuellement reconnues à ces théories dans les débats dont elles sont actuellement l'objet, en particulier la théorie des mêmes. Évidemment, une véritable analyse critique de ces théories exigerait beaucoup plus que les quelques mots que je vais évoquer ici. Alors, évoquons tout d'abord brièvement les avantages qu'on peut reconnaître à ces théories. En premier lieu, c'est peut-être quelque chose d'un peu technique, mais on peut dire qu'elles présentent un premier avantage, c'est qu'elles permettent de modéliser, d'essayer de penser la dynamique culturelle, le changement de culture, le changement des idées dans les sociétés humaines. Or ça, c'est une chose dont on peut dire que les théories qui ont dominé jusqu'ici en sciences sociales, en particulier en anthropologie, pouvaient sans doute beaucoup plus difficilement faire, car elles considéraient la culture, les idées, sous un angle plus statique que dynamique. Donc voilà pour le premier point. Second point positif, elles offrent un modèle général qui permet d'étudier dans les faits les cas d'interaction entre le biologique et le culturel. C'est très bien fait par un anthropologue qui s'appelle William Durham en particulier, et ce qui était sans doute un peu plus difficile avec les théories traditionnelles. Enfin, autre avantage, même s'il faudrait aussi adapter la définition de la culture que donnent ces théories, elle donne un sens à la notion de culture qui est telle qu'il permet de penser l'existence de culture animale, plus précisément donc de prendre au sérieux certains phénomènes chez les animaux qui sont bien entendu très différents de ce qu'on peut observer chez l'homme, mais que permettaient difficilement de décrire les théories traditionnelles qui dressaient une ligne de fracture nette entre la nature et la culture, la culture étant considérée a priori comme le propre de l'homme. Voilà donc pour les aspects positifs. Venons-en donc maintenant aux difficultés, du moins aux questions que soulèvent ces théories, en particulier la théorie des mêmes. En fait, comme l'illustre déjà un peu la critique formulée par Dan Sperber, la théorie des mêmes laisse une question largement irrésolue, du moins largement ouverte. En effet, la question centrale pour cette théorie, comme d'ailleurs pour la plupart des théories qui visent à expliquer les idées en sciences humaines, c'est de savoir pourquoi une idée se diffuse, pourquoi est-ce qu'elle rencontre un succès dans les populations humaines ? Alors, comme on l'a vu, les défenseurs de la théorie des mèmes soutiennent qu'un mème se transmet par imitation. Mais cette explication reste assez largement indéterminée tant qu'on n'a pas précisé ce qu'on entend par imitation. Et sur cette question cruciale, centrale, les réponses fournies par les théoriciens des mèmes sont en réalité assez variables. En fait, elles sont actuellement l'objet de débats nombreux et complexes. En simplifiant, on peut dire que ces débats nombreux et complexes oscillent entre deux positions extrêmes opposées. Première position, on peut tout d'abord entendre le mot « imitation » en un sens étroit et restrictif. On peut dire, par exemple, qu'il y a imitation lorsqu'un individu reprend à autrui une idée ou un comportement parce que cet individu, cet autrui, a exercé sur lui une fascination, une domination, une influence de quelque sorte que ce soit, en somme parce que cet autrui constitue une personne de référence. C'est ce qui se passe souvent dans de nombreux phénomènes de mode et ce sont des mécanismes impliqués également dans de nombreux processus d'apprentissage. Le problème, c'est que si on adopte cette définition étroite et restrictive de l'imitation, on est un peu obligé de laisser de côté un ensemble important de cas de figure dans lesquels d'autres mécanismes de transmission des idées sont manifestement à l'œuvre. Car une importante partie des idées, même si ça peut être l'objet de discussion bien entendu, se diffuse non pas simplement parce que les personnes qui les promeuvent ont un statut d'exemplarité, ont une sorte de pouvoir ou d'ascendant, mais tout simplement parce que les individus jugent nécessaire ou utile l'idée ou la pratique elle-même. Pour prendre un exemple, la vaccination s'est répandue principalement parce qu'on a jugé qu'elle pouvait permettre de diminuer le nombre de maladies. Dans ce cas, c'est l'idée elle-même et le jugement des individus qui se l'approprient qui explique la diffusion. Ce n'est plus le rapport de dépendance d'une personne à une autre. Donc avec une définition restrictive, on est obligé d'exclure ces cas de figure, qui sont quand même des cas assez répandus dans la logique de la diffusion des idées dans les populations humaines. Alors pour pallier cette difficulté, autre position extrême, on peut donner un sens très large à la notion d'imitation. On peut ainsi entendre cette notion en un sens presque purement descriptif, sans préjuger des causes qui expliquent le succès de l'idée ou de la pratique imitée. On dira ainsi qu'il y a imitation chaque fois qu'à l'issue d'un échange, d'un contact entre deux individus, une idée présente chez l'un s'est retrouvée chez l'autre. La théorie des mèmes devient ainsi beaucoup moins exposée à la critique précédente. Mais ce qu'elle gagne en validité, en extension, on voit bien qu'elle le perd alors en intérêt et en pouvoir explicatif, car la question essentielle demeure alors irrésolue. Comment expliquer qu'une idée passe d'un esprit à un autre ? Et là, au fond, comme le reconnaissent de nombreux théoriciens des mèmes, cette théorie, finalement, peut accueillir tous les modèles, du moins un grand nombre de modèles proposés depuis le XIXe siècle en sciences sociales, avec le dosage que l'on voudra, des théories rationalistes proposées par la théorie économique, la théorie du choix rationnel, jusqu'à la psychanalyse, en passant par le culturalisme ou encore les sciences cognitives. Du coup, si on considère les choses ainsi, si on retient cette définition extrêmement large de l'imitation, la théorie des mèmes n'apparaît à la limite presque plus comme une théorie explicative des idées humaines, de la diffusion des idées, mais comme un langage descriptif commode pour décrire et ordonner les faits avant de prétendre en donner une explication, avant d'en rechercher une explication. Voilà, c'est là qu'un simple aspect des choses, une discussion très rapide. Toutes ces questions sont encore l'objet de débats chez ces théoriciens, et je n'ai donné rien d'autre, qu'un aperçu assez rapide. Et il est peut-être sans doute encore trop tôt pour dresser un bilan définitif. Alors peut-être que la théorie des mèmes ne sera qu'un mème passager, qu'une mode scientifique qui tournera court, peut-être que non. En tout cas, une chose est sûre, je le rappelle, c'est une théorie qui doit être très nettement distinguée de la sociobiologie humaine, ainsi que des différents discours, souvent à forte charge inégalitaire, raciste et discriminatoire, qui ont composé ce qu'on a appelé au XIXe siècle le darwinisme social. Voilà, je vous remercie.
Il n'est pas clair de comprendre si vous adoptez les idées que vous nous expliquez, mais je trouve curieux que l'on cherche à transposer les idées de la biologie dans le domaine social, alors que on évite de critiquer les théories biologiques en fonction d'un certain égocentrisme ou anthropocentrisme, ce qui permettrait de relativiser énormément les théories sur lesquelles on s'appuie encore. J'ai l'impression qu'on fait avec Darwin ce que les musulmans font avec Mahomet ou les chrétiens avec Jésus, que ça devient un dogme et qu'on cherche à tout prix à l'appliquer, à tout et n'importe quoi. Dans ce que vous nous expliquez, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de généalogie des idées, il n'y a rien de ce que Darwin a mis sur le tapis et qui ne s'applique qu'à certains êtres vivants, parce que je vous rappelle que la majorité des êtres vivants ne sont pas des êtres sexués, et que le fait d'avoir cette obsession sexuelle, c'est de l'anthropocentrisme ou de l'égocentrisme, qui se prolonge sur, évidemment, quantité d'autres êtres vivants, mais qui ne répond pas du tout au fondamental du vivant qui part de systèmes de conjugaison et qu'on retrouve effectivement dans les sociétés, parce que la transmission des idées se fait par conjugaison, se fait par on prend ici, on prend là, on mélange, on en fait quelque chose d'original pour chacun de nous. Ce que chacun de nous pense, ce n'est pas la transmission directe de qui que ce soit. C'est une combinatoire qui vient d'une diversité existante et on ajoute à la diversité en faisant une nouvelle diversité. Ce qui est à remettre en cause, c'est ce dogme de l'évolution qui n'est qu'un cas particulier dans l'histoire des vivants et qui n'est qu'un point parmi d'autres dans ce qui se passe pour les sociétés humaines. Alors j'ai l'impression qu'on a du mal à sortir du 19e siècle.
J'aurais deux choses à vous répondre, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Je crois qu'en fait, ce qui est très important, vous avez affirmé beaucoup de choses, je crois que ce qui est très important, en fait, et ce qui trouble beaucoup tous ces débats, alors évidemment, il faut être extrêmement vigilant avec toutes ces théories, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est ça que vous voulez dire, il faut être extrêmement vigilant. Mais ce qui perturbe tous ces débats, c'est qu'on réagit trop à des mots. C'est-à-dire qu'on dit, ah, on voit le mot évolution, ça doit être dangereux. En fait, ce qui est très important, c'est de voir le sens que prend le mot évolution. Et à mon avis, je pense pas nécessairement qu'il soit extrêmement précis ou qu'il soit valide dans le sens que donne la théorie des mèmes. Mais je pense qu'il est extrêmement différent de celui qui est utilisé en biologie. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de retrouver certains mots de la biologie et même certains concepts tirés de la biologie en sciences sociales. Il ne faut pas se laisser effrayer par ça. Simplement, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est quand on retourne sur le 19e siècle dont vous avez parlé, on se rend compte que finalement, c'est la biologie qui est investie par les sciences sociales. Prenons par exemple quelqu'un qui a été assez important, qui s'appelle Henry Milne Edwards, parce que c'est quelqu'un sur lequel Spencer s'est beaucoup appuyé. Tous ces biologistes, Milne Edwards par exemple, ou Edmond Perrier, qui a été important aussi pour les sociologues, ce sont des gens qui bâtissent leur modèle de l'organisme en disant il y a une analogie entre l'organisme et la société. Voilà. Donc, pas forcément. En tout cas, sur l'anthropocentrisme, ça, c'en est peut-être une forme, ce que je viens de dire, mais, enfin, ça nous amènerait sans doute loin, mais l'une des grandes ruptures introduites par le darwinisme, c'est quand même la rupture avec l'anthropocentrisme. Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut dire. Darwin a... disons, enlever l'homme du centre du monde vivant, il l'a décentré. La vie devient une histoire, c'est plus une progression qui est orientée vers la formation de la forme humaine. Donc c'est pour ça que, je pense que... Bon, ça c'est la première chose que je veux dire. La seconde, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas réagir à des mots, mais chaque fois d'essayer de voir le sens qui est donné aux notions. À la limite, moi ça ne me dérangerait pas que la théorie des mèmes se fonde sur une très mauvaise analogie avec la biologie, et même qu'il y ait derrière tout ça, finalement, une espèce de tropisme pas très clair et au relent. Bon. Finalement, qu'est-ce qui est important ? C'est de savoir si elle a une valeur explicative en sciences sociales. Donc mettons-la à l'épreuve et regardons ça. Après, ses origines, qu'elles soient, qu'il y ait des résonances, des mots comme ça qui évoquent autre chose, c'est une autre affaire, à mon avis.
Dans l'évolution naturelle, vous avez dit que l'individu, il n'a quasiment aucun apport, en fait, à l'évolution naturelle, c'est plutôt la population qui joue un rôle. Mais par contre, dans la théorie des mèmes, donc, on a l'impression que c'est l'individu qui fait tout, en fait. Est-ce que vous jugez ça comme différence essentielle entre les deux théories ou non ?
Voilà. Alors, j'ai peut-être été pas suffisamment précis. L'individu a une très grande importance dans le darwinisme et dans le néo-darwinisme. On peut même dire que c'est Darwin qui a réhabilité l'individu en biologie, puisqu'avant, ce qui était important, c'était l'espèce, comme type qui surplombait les individus. Dans l'évolution biologique, l'individu, en tant qu'élément singulier, est extrêmement important, puisque s'il n'y avait pas d'individu, de différence individuelle, il ne pourrait pas y avoir de sélection naturelle. Vous voyez ? Pour que la sélection naturelle soit possible, il faut qu'il y ait des légères différences entre les individus. S'ils sont tous identiques, il n'y a pas de sélection possible, puisque aucun n'a un avantage par rapport aux autres. Donc de ce point de vue-là, je n'ai peut-être pas été assez précis, mais l'individu est assez important en biologie, dans la biologie des populations en tout cas. Dans la théorie des mèmes, alors là, c'est vrai que l'individu, au sens de l'individu humain, justement, qui a un esprit, etc., effectivement, il est beaucoup plus important. Mais c'est ambigu, parce que si, plutôt que de parler d'individu, on parle de sujet, ça devient compliqué, parce que on voit bien que dans la représentation qu'on donne la théorie des mèmes, le sujet humain, il est comme coincé entre deux dynamiques évolutives dont il est l'objet, en quelque sorte. Finalement, Dawkins dit, d'un côté, on est une machine à survie pour nos gènes, et de l'autre, on est une machine à réplication pour les mêmes. Alors, il dit dans un... Parce que ces ouvrages ne sont pas dénués d'humour, souvent, qu'il faut on a la capacité de se rebeller contre les mêmes qui nous occupent. Donc, l'individu, en ce sens, a peut-être une force libératoire, mais dont il doit connaître les limites.
Cette théorie mémétique, dont je sais que l'anthropologue René Girard s'y est intéressé, cette théorie mémétique, Dansperger n'y adhère pas, vous l'avez dit. L'anthropologue Philippe Descola est sceptique. Le spécialiste du cerveau, Jean-Pierre Changeux, la trouve simpliste. L'autre spécialiste du cerveau, Israël Rosenfield, la trouve carrément idiote. Et qu'elle... et qu'elle remet en cause le libre arbitre. C'est un des thèmes du dernier livre de Daniel Dennett, d'ailleurs. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Et j'ai une autre question. Des informaticiens essayent de développer une conscience artificielle à base de systèmes multi-agents qui s'inspirent de cette théorie des mèmes. Je voulais savoir là aussi ce que vous en pensez.
Alors oui, en fait, quand même, pour dire qu'il y a aussi des gens qui ont une certaine renommée qui la défendent, justement, Daniel Dennett, lui, la défend avec force, la théorie des mèmes, dans ses ouvrages. En fait, oui, tous les gens qui vont, tous les théoriciens qui vont insister sur la complexité des opérations mentales vont nécessairement être amenés à relativiser l'idée de mème, parce que quand on évoque un mème, on évoque la puissance, si on veut, de réplication d'une idée. C'est comme si on donnait une sorte d'intentionnalité à une idée, en fait. Ce qu'ils récusent, eux, parce que dans leur esprit, et à mon avis c'est un argument assez fort d'ailleurs, dès qu'on considère que les idées ont elles-mêmes un pouvoir réplicateur, finalement ce qui se passe dans le cerveau, l'activité du cerveau, devient nécessairement beaucoup moins importante. C'est des sortes de caisses dans lesquelles les mêmes se posent. Et plus on va accorder d'importance aux opérations mentales, aux mécanismes cérébraux, par exemple le fait de faire des différences entre les espèces animales, eh bien, moins on va considérer qu'il y a des idées qui se déplacent. On va dire, finalement, ce qui est important, ce sont ces attracteurs, et les mêmes, finalement, n'existent pas. C'est une illusion, en quelque sorte. Moi, là-dessus, je reviendrai à ce que j'ai dit, en fait... modestement dans la conclusion, c'est-à-dire que on peut voir ça comme une théorie, c'est ce que dit Dennett un petit peu aussi, hein, qui permet d'abord d'expliquer, de décrire des phénomènes, de les formaliser, et c'est déjà beaucoup, parce qu'en sciences sociales, c'est assez compliqué de décrire et d'ordonner des phénomènes, et ensuite on peut trouver des explications qui correspondront. Donc peut-être que c'est un langage intéressant. Maintenant, ça ne peut pas être quelque chose qui, en soi, est une solution. Ça, je ne pense pas. Et après, il faut théoriser la manière dont les idées se diffusent. Et là, Il y a des gens qui comme Changeux, défendent des positions cognitivistes, d'autres, comme des sociologues, par exemple comme Raymond Boudon, vont défendre des théories rationalistes. On peut défendre aussi des formes de culturalisme, pourquoi pas. L'anthropologue William Durham défend ça aussi, dire que c'est la culture qui, au fond, imprime les choses dans le cerveau des individus. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un langage commode sûrement, mais peut-être pas encore, en tout cas, ou totalement une théorie. Sur l'intelligence artificielle, vous m'avez parlé d'intelligence, pas de conscience. De conscience. Là, j'avoue que... Enfin, là, ça déborde peut-être de mes compétences, mais... j'ai du mal à concevoir comment on peut être sûr qu'un objet a une conscience. Une intention, ça pose moins de problèmes, mais une conscience...
Mais ce serait un système d'intelligence artificielle à base de systèmes multi-agents, c'est-à-dire des agents informatiques qui seraient en relation entre eux, qui négocieraient, qui seraient en compétition.
D'accord.
Et dont ce système-là émergerait des idées, à partir de ce système-là.
Enfin, là, je vous pose une question totalement de profane, parce que j'ai du mal à me représenter... de prendre conscience d'une autre conscience. Vous voyez, j'arrive pas à... Du coup, je me penserais que c'est moi, peut-être. mais c'est pas facile.
Non,
l'attention, c'est pas pareil, mais la conscience... Enfin bon, là, je suis un profane, je ne pourrais pas vous répondre.
Une sorte de conscience, quoi. C'est comme s'il y avait de la conscience artificielle. Et il émergerait des idées, des solutions, Ce serait des gros calculateurs.
Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir conscience que de sa propre conscience. Mais bon, c'est une autre affaire. Hein.
Bon, c'est un peu philosophique. Quand même.
Je suis désolé de ne pas pouvoir mieux vous répondre sur cette question.
Oui, je voudrais voir un peu la base de votre exposé. N'est-ce pas ? Dans un premier temps, vous avez parlé de la théorie darwinienne de l'évolution.
Oui.
Et vous avez laissé entendre, en quelque sorte, que c'était un peu le noyau, la base, le socle scientifique de votre extrapolation... disons, au comportement, à la diffusion des idées chez l'homme. Mais croyez bien que ce n'est pas le mot évolution qui me fait peur. Ce qui me fait tout simplement peur, c'est que la théorie darwinienne de l'évolution ne tient pas. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Le gros problème de la théorie darwinienne de l'évolution qu'on n'a jamais expliqué, vous avez par exemple parlé de mutations. Mais les mutations sont des petites variations dans une espèce. Mais ce qui est très important, n'est-ce pas, et c'est ce que la théorie d'évolution n'a jamais été capable d'expliquer, c'est le passage d'une espèce à une autre. C'est-à-dire, vous avez par exemple une espèce qui a 23 paires de chromosomes et qui passe à 40 paires de chromosomes, etc. Et ça, c'est des processus, ce ne sont pas des mots. Voyez-vous, monsieur, ce ne sont pas des mots. Parce que, voyez-vous, dans un premier temps, vous avez présenté votre théorie comme centrée sur le darwinisme en acceptant, en disant que c'est admis, c'est vérifié, c'est une théorie scientifique. Je vous dis que ce n'est pas vrai du tout. Et d'autre part, sur la fin de votre exposé, vous dites, mais ce référent, ce paradigme scientifique, au fond, je m'en fiche, j'ai besoin d'un langage. N'est-ce pas, pour mettre de l'ordre. Mais là, je vous dirais, ce langage, ce sont des mots.
Comme on peut le voir, ce n'est pas facile toujours de développer ses idées dans un climat parfaitement serein. Mais je vais vous répondre quand même, parce que... Non, mais je plaisante. Alors, je ne voudrais pas vous avoir laissé l'impression que j'étais un darwinien impénitent en biologie, parce que, ne serait-ce que parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Bon, moi, étant extérieur à ce champ, puisque je suis sociologue, j'entends des gens comme vous qui me disent que c'est réfuté, mais j'entends aussi plusieurs prix Nobel qui me disent que c'est une théorie très importante et dominante. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, c'est la première chose, mais ça, c'est un argument d'autorité. Je vais vous en donner un vrai. C'est un argument d'autorité. Je vais vous en donner un autre. Je pense qu'il y a deux choses. Bon, vous dites que la théorie darwinienne de l'évolution n'explique pas certains faits. C'est possible, mais laquelle théorie les explique ? Oui.
C'est pas parce qu'il y a un mystère.
Personne. Attendez. Laquelle théorie les explique ? On sait très bien que, au moins depuis Popper, on sait très... Pardon, je termine ma réponse. On sait très bien depuis Popper qu'une théorie scientifique n'a pas vocation à expliquer tous les phénomènes qu'elle rencontre. La question est de savoir si la théorie darwinienne est réfutée. Et il semble... Mais il y a vraiment des débats tellement compliqués sur cette question que je il me paraît hasardeux de tirer dès à présent des conclusions définitives. Par exemple, le biologiste Ernst Mayr considère quant à lui que cette théorie, elle s'aménage, mais elle a survécu à de nombreux problèmes qui lui ont été posés. Autre chose, et c'est ce qui explique très bien Ernst Mayr aussi, c'est qu'en fait, ce qui introduit beaucoup de confusion dans ces débats, ce qui introduit beaucoup de confusion dans ces débats, c'est qu'il y a en réalité plusieurs thèses chez Darwin. Lui, il en dénombre au moins 5. Certaines d'entre elles sont acceptées aujourd'hui. L'idée selon laquelle nous descendons tous d'un ancêtre vivant qui serait commun, bon, elle est globalement, elle n'est pas réfutée. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, non. Même s'il y en avait deux, ça ne changerait rien d'ailleurs, parce que ça ferait deux arbres différents. Ça ne remettrait pas en cause la thèse de Darwin sur cette question, parce qu'il dit lui-même une ou plusieurs. Voilà. Bon, ça c'est des points évidemment tout de suite sur Darwin. Il y a des débats extrêmement houleux. Moi je pense que le plus simple et le plus juste peut-être, c'est de dire qu'il y a des débats. Et il y a un débat en particulier sur un point important, et c'est peut-être ça qu'il faut souligner, c'est sur la sélection naturelle. C'est là vraiment qu'il y a des questionnements entre les biologistes, entre certains qui considèrent que c'est un phénomène essentiel, comme Ernst Mayr lui-même, et puis des biologistes plus radicaux comme Williams, et d'autres qui ont proposé d'autres théories, comme Kimura avec la théorie neutraliste, etc. La deuxième chose que je voulais absolument dire, c'est que, en fait, souvent, quand les sciences sociales s'appuient sur des analogies avec la biologie, on se dit, bon, la valeur du modèle en sciences sociales doit dépendre de sa valeur en biologie. C'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans les textes qui sont écrits sur le 19e siècle. Alors, je ne vois pas pourquoi ce serait vrai. Finalement, on pourrait très bien dire que sur une analogie complètement bancale, on pourrait construire un modèle très fécond en sciences sociales. Parce qu'au fond, le juge de paix là-dedans, c'est de savoir est-ce que le modèle qu'on a obtenu par analogie, quels que soient les moyens avec lesquels on l'a obtenu, est-ce qu'il nous dit quelque chose d'intéressant sur les phénomènes sociaux? Voilà. Donc dans ce cas-là, je pense que sur une analogie même bancale, on peut bâtir des choses intéressantes. C'est vraiment la cohérence logique et la valeur empirique de la théorie dans son domaine d'application qui doivent constituer les juges de paix. Voilà.
Alors écoutez, moi, cette théorie des mêmes me fait un petit peu peur par rapport toujours au dictateur, si vous voulez. Alors je me dis, est-ce que si un dictateur retenait cette idée, est-ce qu'il ne pourrait pas choisir lui-même, sélectionner une idée, si vous voulez, et puis l'imposer à la société, à une nation, voire même à un empire spirituel? Je crois qu'il y a eu des modèles en Chine, avec la Chine d'il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, enfin, je n'ai pas tellement d'exemples à donner, d'accord, mais j'ai peur de cela.
J'ai compris votre question. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de bâtir cette théorie pour avoir cette idée, en fait. C'est précisément parce que l'idée existe, peut-être qu'on l'a théorisée, mais elle ne va pas augmenter les chances que cette éventualité se présente, je ne pense pas. Parce que c'est une chose à laquelle on pense spontanément. Donc ça n'est qu'un cas particulier de ce que décrit cette théorie. Et en plus, y a bien d'autres phénomènes que ceux de la manipulation qu'elle peut décrire. Mais encore une fois, je pense qu'il est important, c'est de voir que, en fait, ces théories, elles cherchent à expliquer. Ce sont des sciences sociales, alors elles le font mal ou bien, elles peuvent être inintéressantes ou plus ou moins intéressantes. Moi, je pense que la théorie des mêmes n'a pas encore démontré qu'elle était intéressante. Enfin, il y a encore beaucoup de débats, mais il faudrait que les choses soient creusées encore pour que ce soit définitif. La question est de savoir, est-ce qu'elles sont intéressantes ou non? Est-ce qu'elles éclairent des phénomènes qu'on peut expliquer ou non? Après, les usages idéologiques qui peuvent être faits d'une théorie, ça, on ne les contrôle pas trop. Mais celle-là, elle me paraît, à la limite, c'est pour ça que j'y ai insisté beaucoup, parce que souvent, elle a été associée à la sociobiologie, qui elle-même, peut-être, a drainé quelquefois des idéologies assez inégalitaires. Pas toujours, mais quelquefois. C'était ambigu, du moins, dans la mesure où les sociobiologistes passer très rapidement sur certaines questions, on pouvait nous-mêmes se poser des questions, mais cette théorie-là, comme toutes les théories en sciences humaines, elle peut être utilisée par des gens, oui, mais pas plus que d'autres, pas moins, je crois.
Juste quelques remarques par rapport à ce qui a été dit de part et d'autre. Tout d'abord, René Girard est l'adepte, il a fondé une pensée qui s'appelle la mimétique, et non pas la mémétique, c'est différent. Deuxième chose, en fait, je crois que le mot Darwin a fait peur à un petit peu tout le monde. Je vous ai trouvé très consensuel. Moi, pour ma part, si j'avais à m'exprimer, je serais un peu plus extrême. Darwin, en fait, il a mis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement mis en évidence une loi du vivant, qui est que chaque organisme vivant procède par un processus de essai-erreur. C'est-à-dire qu'il va faire tel essai pour essayer d'atteindre tel but. Si ça ne marche pas, il va l'abandonner ou alors même il va mourir jusqu'au moment où il va parvenir à faire avoir un comportement profitable pour lui, pour sa descendance, pour la survie, etc. etc. Pour les idées, effectivement, c'est une analogie qui est intéressante. Cette idée, donc, ce qu'a découvert Darwin par rapport au monde du vivant, c'est effectivement intéressant. Je m'exprime pas bien, excusez-moi. La mémétique donc, a mis en lumière une analogie très intéressante. Je pense que votre erreur peut-être a été de présenter la mémétique et l'idée des mèmes comme quelque chose de dogmatique, alors qu'en fait c'est pour l'instant, chez les chercheurs, un outil de travail. C'est rien d'autre, rien de plus que ça. C'est un outil de travail qui est en constante évolution. Vous avez parlé d'Hans Sperber qui a apporté des modifications importantes à cette idée de la mémétique. Ça ne cesse pas d'évoluer, en fait, tout simplement. Je peux renvoyer par exemple les gens qui sont ici à deux livres intéressants, Le gène égoïste de Richard Dawkins, La contagion des idées de Dan Sperber, qui donneront deux points de vue extrêmement différents sur ce que vous venez d'évoquer. Peut-être comprendront-ils qu'il y a là effectivement quelque chose de très intéressant. Voilà, merci.
J'avais deux remarques à faire. C'est que je ne suis pas convaincu par votre présentation de Darwin, là, essai-erreur. Hein. Je pense que ça ressemble presque plus à du Lamarck, ce que vous avez dit, mais bon. C'est une opinion personnelle. La deuxième chose, c'est que j'espère que je n'ai pas présenté ça de façon dogmatique, parce que ce n'est pas ce que je voulais faire, en particulier dans ma conclusion, quand j'ai dit que c'était un langage, et que justement, précisément, c'était quelque chose qui préparait le terrain à des recherches, mais ce n'était absolument pas un dogme, et qu'il y avait, parmi ces théoriciens, des gens qui défendaient des positions avec une conception très précise de l'imitation, et d'autres une conception beaucoup plus large. Voilà.
Dominique Guillot, merci beaucoup. Merci.